Cette émission est une rediffusion.
Le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue à ce numéro du magazine des Nations Unies. Des titres. L'Organisation mondiale de la santé, OMS-RDC, se félicite du succès de la campagne de vaccination contre le Mpox menée dans quelques provinces du pays. Son représentant à RDC estime que plus de 90% des personnes ciblées pour cette vaccination ont été atteintes. Le HCR a débuté jeudi dernier la remise officielle des actes de naissance aux enfants déplacés, retournés et rapatriés de l'Angola, se trouvant au village en Coco et dans la localité de Chilumba. Cette opération rentre dans le cadre de la campagne de rattrapage de l'enregistrement des enfants à l'état civil. Le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé en RDC, Dr Bourehima Amasambo, est l'invité de cette édition du magazine des Nations Unies. Voilà pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. La journée des Nations Unies a été commémorée le jeudi 24 octobre autour du thème « Agissons ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine ». À travers le monde, plusieurs activités ont été organisées tout au long de la semaine. À Kinshasa, elles ont eu lieu du 15 au 25 octobre. Nous pouvons citer entre autres une sensibilisation mercredi des finalistes du secondaire du complexe scolaire Kimbuta dans la commune de Kassavubu. Le jeudi, la grande famille des Nations Unies a échangé avec des jeunes dans les installations du Texafrica sur les opportunités que les Nations Unies offrent aux jeunes. Pourquoi le choix des jeunes pour ces activités de sensibilisation? Joseph Mankamba, chargé de communication du bureau du coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC, explique.
Pour cette année, la particularité, c'est que dans la commémoration, nous avons décidé d'avoir des moments d'interaction et d'échange avec les différentes parties prenantes, avec l'accent mis sur les plus jeunes et les adolescents. Et nous avons choisi cette catégorie parce que nous sommes convaincus qu'il est important de parler des Nations Unies dès le bas âge aux adolescents et aux jeunes pour qu'ils puissent bien comprendre, parce qu'il s'agit de la pépinière de l'avenir de demain, c'est qu'ils devront bien comprendre ce que les Nations Unies font et qu'ils devront porter les différentes missions, les différentes activités des Nations Unies pour que dans les années à venir, ils puissent être des acteurs importants du changement dans tous les secteurs de la vie, principalement pour tout ce qui est de développer, de soutenir et de construire la paix, de participer au développement durable et de pouvoir veiller au respect des droits humains et dans l'ensemble à tout ce qui est la dignité de l'homme.
Notez que les activités en rapport avec ce thème de l'année se poursuivront jusqu'en octobre 2025. Parlons santé. La campagne de vaccination contre le Mpox en République démocratique du Congo est un succès dans les provinces où elle se déroule. C'est ce que déclare le représentant de l'OMS en RDC. Selon le docteur Bourehima Amasambo, plus de 90% des personnes concernées par la vaccination au cours de cette première phase dans quelques provinces du pays ont été atteintes. La campagne de vaccination contre le virus Mpox a démarré au début du mois d'octobre par le Nord Kivu et le Sud Kivu avant de s'étendre sur d'autres provinces. Suivant ces précision de Dr Bourehima Amasambo, représentant de l'OMS en RDC, au micro de Stanislas Odiumi.
Si on considère les cibles qui ont été définies pour cette campagne, nous pourrons dire que ça a été vraiment un succès. Puisque par rapport aux chiffres, aux cibles plutôt, il y a des campagnes et des provinces qui ont déjà atteint 100% de ceux qui étaient ciblés. C'est notamment le Sankuru, le Sud-Ubangui et la Tchopo. Mais grosso modo, au point de vue national, sur la cible initiale de micro-planification, c'est plus presque 90% de la cible qui a été déjà vaccinée à cette première dose. Comme vous savez, le vaccin que nous utilisons, c'est un vaccin dont l'immunisation se passe en deux doses. Donc il y a une première vaccination, une première dose ou les premiers antigènes qui sont administrés, et il y aura à peu près un mois après le passage à la deuxième dose pour que la personne vaccinée, qu'on considère qu'elle est complètement immunisée. Donc nous pouvons dire, si on parle d'un taux, ça fait 12 jours, 2 semaines de vaccination, si on est vraiment à presque 90% à l'échelle de ces 6 provinces, nous pouvons dire que la campagne a été un succès.
Nous sommes au Nord Kivu à présent. Plus de 3000 écoliers viennent de recevoir leur acte de naissance en territoire de Niragongo. Cela grâce à un projet de l'ONG Mouvement international de droits de l'enfant, de la femme, de l'homme veuf et de leur promotion sociale, MIDEFEOPS, projet financé par l'UNICEF. La remise est intervenue mercredi dernier à Munigi. Selon un acteur local de la société civile du territoire de Niragongo, ceci évite désormais le risque d'apatridie pour ses enfants. Les propos de Jean-Étienne Bousséni Bamoué sont recueillis ici par Bernard Denyangui.
Plus de 3000 écoliers de la zone de santé de Niragongo viennent de bénéficier des actes de naissance grâce au plaidoyer mené par l'ONG MIDEFEOPS. Nous, organisations de la société civile, nous remercions l'ONG MIDEFEOPS et son partenaire financier qui ont fait tout possible pour que ces enfants écoliers, depuis de 90 jours, soient reconnus comme Congolais, Congolaises, et qui ont obtenu leurs actes de naissance. À notre niveau, c'est une satisfaction que nous les demandons de continuer à mener d'autres actions à la de même sens pour les autres enfants qui n'ont pas bénéficié des actes de naissance.
Cette opération entre dans le cadre du projet de protection des enfants et survivants des violences basées sur le genre affectées par les conflits armés au Nord Kivu. Il cible 17 000 écoliers et c'est l'ONG MIDEFEOPS qui exécute ce projet depuis quelques mois dans cette province. Une opération de remise d'actes de naissance aux enfants qui n'en disposaient pas jusque-là est aussi en cours dans la province du Kasaï central. C'est le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés qui l'a officiellement lancé jeudi dernier. Les bénéficiaires sont des enfants des déplacés, retournés et rapatriés d'Angola se trouvant au village Nkoko et dans la localité de Chilumba. L'opération rentre dans le cadre de la campagne de rattrapage de l'enregistrement des enfants à l'état civil. Elle est menée par le HCR en partenariat avec le Comité technique interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie en RDC. François Kadima nous en dit plus.
Cette campagne vise 3300 enfants des déplacés, retournés et rapatriés d'Angola qui sont sur les deux sites notamment Konko et Chilumba. Il s'agit de la remise des actes de naissance, ces documents conférant une existence juridique. Ces enfants n'ont pas été déclarés à la naissance. L'un des parents qui a vu son enfant bénéficier de ce document a salué cet exposé avec le soutien du HCR.
Des fois quand on veut s'identifier, on n'avait que la carte d'électeur pour nous qui sommes majeurs. Mais pour les enfants, aucun document de l'air a été donné. Ça me rassure maintenant que les enfants ne sont pas des apatrides, mais ils sont des Congolais de sang.
Appelant l'engagement de tous, le chef de sous-délégation du HCR au Kasaï a indiqué que le souci derrière cette action est de lutter contre l'apatridie. Docteur Jacques Gondo.
Pour que chaque enfant ait une identité juridique, cela dépend de votre engagement, de votre dynamisme et de votre détermination à éliminer de façon effective les risques de l'apatridie au Kasaï central.
Signalons que les enfants concernés par ce rattrapage sont ceux qui n'ont pas été enregistrés à l'état civil dans le 90 jours après la naissance. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Parlons à présent de ces chiffres du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour le mois de septembre 2024. Il a recensé 317 cas de violation de droits de l'homme dans tout le pays et ces incidents ont fait 1400 victimes. Le BCNUDH note que le nombre des victimes de septembre est plus important que celui du mois d'août. Ronelly Tibonera a parcouru ce rapport et nous partage les grandes lignes.
Dans ce rapport, la ville province de Kinshasa arrive en tête de province ayant enregistré plus des cas de violation de droits humains. Ceci résulte de la tentative d'évasion enregistrée le 10 septembre 2024 à la prison centrale de Makala. Au cours de cet incident, cette branche onusienne indique que 150 détenus ont perdu la vie. Dans les zones en proie au conflit, on peut plus de 250 violations et atteintes aux droits de l'homme ont été enregistrées. Cela représente une diminution de 13% par rapport au mois précédent où l'on a enregistré 287 cas. Ce rapport révèle que le meurtre et la mutilation ont été les violations les plus fréquentes dans le province du Nord Kivu et de l'Ituri. Parmi les acteurs de violations de droits de l'homme figurent les groupes armés dont le M23 qui arrive en tête, suivi de la milice Codeco, puis la PCLS et les ADEF. Dans le Provence, non affecté par les conflits, le BCNUDA signale une augmentation de violations et atteintes aux droits de l'homme par rapport au mois précédent. Cela s'explique par une augmentation des cas documentés d'arrestations et détentions arbitraires, par les dépassements du délai légal de garde à vue dans le Provence des Kinshasa et du Haut-Katanga.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le magazine des Nations Unies reçoit dans ce premier entretien Dr. Anne-Marie Ntumba, directrice du Programme National Santé de la Reproduction à l'UNFPA Kinshasa. Elle nous parle de l'installation du comité provincial permanent de la planification familiale dans la province du Maniema. Elle s'entretient ici avec Florence Kizalunga.
Docteur Anne-Marie Ntumba, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Installation du comité provincial permanent de la planification familiale dans la province du Maniema, c'est quoi son objectif?
Merci beaucoup. L'objectif de l'installation de ce comité, c'est pour faire la promotion des activités de la planification familiale. Faire la promotion des activités familiales, c'est pouvoir donner le choix aux hommes, aux filles et aux femmes du Maniema de pouvoir choisir parce que leur destin leur appartient et de pouvoir surtout participer au développement de la province. Un couple qui fait de la planification familiale choisit le moment où il doit faire les enfants, le nombre d'enfants à faire, quand, parce que on voit qu'il y a beaucoup de décès dans la province. Les décès sont plus dus à des grossesses trop nombreuses et des grossesses trop rapprochées ou des grossesses qui arrivent chez des jeunes filles avant 18 ans et tout ça, ça engendre que le corps ne peut pas s'adapter et ça amène la femme à la mort. Et une femme qui va accoucher pour donner la vie, c'est une vie perdue pour rien. Donc c'est vraiment contre ça qu'on est en train de se battre pour aider les femmes parce qu'elles savent pas. Il existe des méthodes naturelles et des méthodes modernes pour faire la planification familiale. Et ça, les hommes doivent bien les accompagner. Nous avons eu un aura très positif avec les autorités de la province. Tous les ministres que nous avons rencontrés, ils sont tous très soucieux de la santé de la population du Maniema et ils veulent à travers le travail que ce comité composé des ministères santé, plan, budget, éducation, genre, ainsi de suite, vont faire en compagnie des partenaires qui aident la province. Ils veulent vraiment aider la province à ce que ça soit fini les décès des femmes pour les causes d'accouchement.
À part la promotion de la planification familiale, quel sera le rôle de ces comités installés?
C'est sensibiliser aussi, promouvoir, sensibiliser, donner l'information. Et puis après, le ministère, à travers le gouvernement, qui va donner les moyens aussi. Ils ont promis fermement de donner les moyens de pouvoir former les gens qui donnent la planification familiale, renforcer les capacités des prestataires. Ils vont approvisionner, ils vont même créer une ligne budgétaire qui va faire qu'on puisse, dans la province, s'approvisionner aussi. Ils vont même aider aussi certains produits qui sont déjà disponibles à Kinshasa, qui ne sont pas arrivés ici, tout simplement parce qu'ils manquent des moyens de transport, à ce que ces produits puissent arriver ici et puis que ça arrive vraiment dans tous les 18 zones de santé, dans tous les centres de santé qui existent au Maniema, afin que quand la personne a besoin, qu'elle puisse trouver, qu'elle ne puisse pas avoir un besoin qui ne soit pas satisfait.
En ce qui concerne le mode de fonctionnement, qui va assurer les frais de fonctionnement pour ces comités? Parce que quand vous dites il faut les acheminements des médicaments, il faut ceci, tout ça se demande des moyens, mais aussi qui va chaque fois doter des médicaments à ces comités?
Le gouvernement national achète des médicaments pour le pays. Et quand ils achètent les médicaments, dernièrement, nous, on a pu en acheminer un peu jusqu'ici au Maniema. Donc le gouvernement national achète et puis les gens aident à amener jusqu'ici dans la province. Et puis les partenaires aussi qui sont dans la province, nous avons le Fonds des Nations Unies pour la population qui travaille aussi sur les questions de santé des droits sexuels et reproductifs. Ils vont aider aussi le SANRU, tous les partenaires qui travaillent et nous allons même chercher d'autres partenaires pour qu'ils essayent de venir aider la province qui a déjà la volonté affichée. On sait que c'est dans un contexte de peu de moyens. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils ont la volonté. Ils mettront le peu de moyens qu'ils pourront, mais il y a les partenaires qui vont nous aider aussi à mettre les moyens.
Alors, qu'est-ce que la coordination nationale attend de ces comités récemment installés?
Le comité national attend que le comité provincial se mette à l'œuvre pour pouvoir accompagner la population de la province à connaître leurs droits sexuels et reproductifs, à les utiliser, à pouvoir choisir les méthodes de contraception modernes qu'ils veulent, parce que quand on a bien fait sa contraception, on ne va plus être exposé aux problèmes de mortalité maternelle pour des causes évitables. La mortalité néonatale et maternelles sont très élevées dans la province. Alors, comme la planification familiale, c'est une des stratégies qui aide à réduire jusqu'à 30%, c'est pour ça qu'on a pensé, on a discuté, et les autorités de la province sont bien d'accord d'accompagner, qu'ils vont faire le nécessaire pour que la population connaisse ses droits, qu'ils donnent aussi le peu de moyens qu'ils peuvent donner, et le gouvernement national aussi donne, et les partenaires qui nous accompagnent dans cette matière-là des droits sexuels et reproductifs, parce que les partenaires sont toujours encouragés quand ils voient que le gouvernement aide, lui-même met la main à la pâte, et les partenaires vont faire ça de cœur joie.
Docteur Anne-Marie Toumba, merci.
Merci beaucoup, madame la journaliste.
Notez-vous, le PNUD, programme des Nations Unies pour le développement, vient de doter le commissariat provincial de la police d'un centre de coordination des opérations en CCO. Il s'agit d'un bâtiment nouvellement construit et équipé en matériel nécessaire pour le suivi sur le terrain de toutes les opérations engagées pour assurer la sécurité de la population et de ses biens, également pour endiguer la criminalité. La cérémonie de remise officielle de cet outil de commandement a été présidée mardi par le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Le commissaire divisionnaire Romuald Ekuka Lipopo a appelé à un usage responsable de cette dotation. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, se positionne à l'avant-garde de la lutte contre la violence faite aux enfants. La ville a accueilli jeudi 24 octobre dernier la toute première conférence nationale consacrée à ce sujet. Cet événement historique a été organisé en partenariat avec l'UNICEF et s'est tenu sous l'égide de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Cette conférence, une avancée majeure dans la lutte contre la violence envers les enfants, a réuni 8 ministères clés, aussi des acteurs de la coopération internationale, du secteur privé et de la société civile. Surtout, elle a intégré activement les enfants et les jeunes filles principales concernées dans l'élaboration d'une stratégie nationale pour éradiquer la violence à leur égard.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies reçoit comme invité Dr Bureima Amasambo, représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en RDC. La campagne de vaccination contre le Mpox en République démocratique du Congo est un succès dans les provinces où elle se déroule. Déclaration qu'a faite jeudi à Radio Kapi, le représentant de l'OMS en RDC. Dr Bureima Amasambo estime que plus de 90% des personnes concernées par la vaccination dans quelques provinces du pays au cours de cette première phase ont été touché. La campagne de vaccination contre le virus Mpox a commencé au début du mois d'octobre par le Nord et le Sud Kivu avant de s'étendre sur d'autres provinces. On écoute Dr Bureima Amasambo, représentant de l'OMS en RDC, dans cet entretien avec Stanislas Odiumi.
Dr Bureima Amasambo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes représentant de l'OMS en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous parlons de la vaccination Mpox. Quelle évaluation faites-vous de cette campagne de vaccination qui a été déjà lancée?
Comme vous savez, la vaccination a été lancée en début de ce mois, officiellement le 6, mais les campagnes de vaccination ont commencé le 7 dans 3 provinces et 3 autres provinces ont rejoint donc cet effort de vaccination au niveau national. Donc à l'heure où nous parlons, il y a 6 provinces où la vaccination s'effectue. Si on considère les cibles qui ont été définies pour cette campagne, nous pourrons dire que ça a été vraiment un succès. Puisque par rapport aux chiffres, aux cibles plutôt, il y a des campagnes et des provinces qui ont déjà atteint 100% de ce qui était ciblé. C'est notamment le Sankuru, le Sud-Ubangui et la Tchopo. Au point de vue national, sur la cible initiale de micro-planification, c'est plus presque 90% de la cible qui a été déjà vaccinée à cette première dose. Donc, nous pouvons dire que la campagne a été un succès.
Et existe-t-il des difficultés que vous avez rencontrées sur terrain par rapport à la campagne de vaccination?
Il y a des difficultés, parce que d'abord, c'est un nouveau vaccin. Deux, c'est des groupes particuliers que nous cherchons. Comme vous savez, cette première étape a touché pratiquement 3 cibles. C'est ce qu'on appelle les personnes de première ligne, les soignants, ce qu'on appelle les personnes clés, comme on les appelle, c'est les professionnels de sexe, et nous avons les contacts et les contacts des contacts. Tous ces groupes sont des groupes un peu particuliers, mais au début, vous savez, la surveillance a connu un retard de démarrage. ce qui fait que les contacts, c'était pas difficile, mais les contacts des contacts a été difficile. Aussi, vous savez, pour les populations clés, les toucher nécessite des approches qui ne sont pas des approches conventionnelles. Ça a demandé beaucoup de tact pour nos professionnels de la santé d'identifier ce groupe et d'être en mesure de les convaincre de la nécessité de se faire vacciner. Les autres difficultés sont logistiques. Vous savez, nous avons des routes qui sont difficiles. C'est un vaccin qui demande une chaîne de froid. Donc tout ça, il y a eu des difficultés, mais Dieu merci, comme je vous dis, avec les chiffres qu'on a pu obtenir, vous comprenez bien que ces difficultés ont trouvé des solutions.
Et pour le reste des provinces, quel est le calendrier vaccinal prévu?
Oui, au niveau national, comme je dois vous dire, nous avons ce qu'on appelle les provinces hotspots. C'est à peu près 11 provinces. Particulièrement 8 où nous voulons intervenir. Et la lenteur ou l'autre difficulté que j'allais dire avec les vaccins, c'est les doses qui sont limitées. Et pour le moment, il faut quand même se féliciter qu'au niveau de la région africaine, nous sommes un des premiers à commencer à vacciner. Nous avons reçu des premières doses qui sont de l'ordre de 265 000 doses. Nous espérons de quantités plus importantes. Vous avez certainement appris que le gouvernement du Congo a signé des accords avec le gouvernement du Japon. D'ici la fin de l'année, à peu près 3 millions de doses sont attendues, ce qui pourrait vraiment nous permettre d'élargir les cibles ou les personnes qui bénéficieront de ce vaccin. Et l'autre avantage de ces doses que nous attendons, c'est aussi la possibilité de vacciner des groupes plus jeunes.
Vous êtes représentant de l'OMS en République démocratique du Congo. En peu de mots, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à la population en ce qui concerne la maîtrise de cette épidémie des mpox?
C'est vrai, l'Organisation mondiale de la santé travaille avec les gouvernements et les autres partenaires pour asseoir toute une politique de maîtrise de l'épidémie. On a parlé de la vaccination qui est un pilier clé, mais il y a beaucoup d'autres piliers et c'est l'ensemble des piliers qu'on met ensemble pour maîtriser une épidémie. Je vous ai parlé de prendre en charge, parce que s'il y a des patients, il faut les prendre en charge, il faut communiquer, il faut sensibiliser, il faut faire des diagnostics de laboratoire. Donc c'est tout ceci que nous appuyons le gouvernement avec les autres partenaires pour que nous puissions amener toutes ces interventions le plus lointain possible, là où il y a nos populations, puisque véritablement, c'est les populations qui ont besoin de cette aide. Nous avons un ensemble d'à peu près 13 piliers, y compris ce que nous appelons la continuité des services de santé. Donc, dans un pays, c'est un ensemble. Il ne faut pas s'attaquer à une épidémie, oublier les autres. Il faut les traiter de manière concomitante.
Docteur Bourim Amasambo, je rappelle que vous êtes représentant de l'OMS en République démocratique du Congo. Nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
C'est nous qui vous disons merci.
Nous sommes à Bunia. Il n'est possible d'envisager le départ de la MONUSCO de la RDC qu'après la mise en place effective du programme de démobilisation, désarmement et relèvement communautaire et stabilisation. C'est la recommandation faite jeudi dernier à Howe, dans le territoire de Djougou, par les leaders communautaires des entités Emalendu à une délégation de la MONUSCO conduite par la chef de cabinet de la numéro 2 de la mission. L'objectif de cette visite était de s'imprégner du rôle des casques bleus dans le processus de protection en civil. Le point avec Ezekiel Moussalia.
Les leaders communautaires, acteurs de la société civile et organisations féminines locales ont exprimé leurs préoccupations par rapport à la situation sécuritaire encore précaire dans les entités de Baema Nord et secteur de Walendu-Pitsi dans le territoire des Djougou. C'est entre autres la détention d'armes par les groupes armés locaux Kodeko et Zaïre et des actes de provocation d'attaques réciproques qui causent préjudice à la population. Mateso Kipoi, chef du groupement Laoudjo du secteur de Walendu-Pitsi.
Pour la première fois, ils nous ont ramené les jeunes de la communauté Emma à Laoudjo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons aussi sur le terrain Emma pour les pourparler. C'est ça notre souci.
Ces notables saluent toutefois l'apport de la MONUSCO pour l'amélioration de la sécurité et la cohabitation pacifique. Ils plaident pour l'intensification des patrouilles en vue de faciliter les échanges commerciaux aux différents marchés communautaires. Le représentant du chef de Baema Nord, Henri Tchoupa.
Ce que nous allons encore nécessiter de la part de la MONUSCO, que leur patrouille nocturne soit beaucoup intensifiée. Si ça a été des départ de la MONUSCO, il faudrait d'abord accélérer avec le processus de PDDRC.
La MONUSCO promet de plaider auprès du gouvernement central pour la mise en œuvre de ces processus. Elle encourage cependant les leaders locaux à privilégier les dialogues pour préserver les acquis des pays. De retour d'Euro, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Trois dates à retenir dans vos agendas pour la semaine qui commence. Le 31 octobre, c'est la Journée internationale des villes. Le 2 novembre, la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Et enfin, le 5 novembre, la Journée mondiale de sensibilisation contre les tsunamis. Et c'est la fin de ce numéro de votre magazine à réécouter sur www.radiocapi.net. Merci de votre attention. Merci également à Polydor Basunga pour la coordination technique. Au micro, Babel Pongo Massimango avec Jeff Opila à la production, coordination et réalisation. À dimanche prochain pour un nouveau numéro dans le programme.
Cette émission est une rediffusion.